Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous nous retrouvons donc en début de semaine pour la suite du roman de Françoise Sagan, Bonjour Tristesse. Je retrouvais Anne sur la terrasse. Elle descendait sur la plage rejoindre mon père. Elle m'accueillit avec l'air ironique dont on accueille les gens qui ont bu la veille. Je lui demandai ce qu'elle avait failli me dire le soir avant que je m'endorme, mais elle refusa en riant, sous prétexte que ça me vexerait. Mon père sortait de l'eau, large et musclé, il me parut superbe. Je me baignais avec Anne, elle nageait doucement, la tête hors de l'eau, pour ne pas mouiller ses cheveux. Puis nous nous allongeâmes tous les trois, côte à côte, à plat ventre, moi entre deux, silencieux et tranquille. C'est alors que le bateau fit son apparition à l'extrémité de la crique, toute voile dehors. Mon père le vit le premier. « Ce cher Cyril n'y tenait plus, » dit-il en riant. « Anne, on lui pardonne ? Au fond, ce garçon est gentil. » Je relevai la tête. Je sentais le danger. « Mais qu'est-ce qu'il fait ? » dit mon père. « Il double la crique. Ah, mais il n'est pas seul. » Anne avait à son tour levé la tête. Le bateau allait passer devant nous et nous doubler. Je distinguai le visage de Cyril. Je le suppliai intérieurement de s'en aller. L'exclamation de mon père me fit sursauter. Pourtant, depuis 2 minutes déjà, je l'attendais. Mais c'est Elsa ? Mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Il se tourna vers Anne. « Cette fille est extraordinaire, elle a dû mettre le grappin sur ce pauvre garçon et se faire adopter par la vieille dame. » Mais Anne ne l'écoutait pas. Elle me regardait. Je croisais son regard et je reposais mon visage dans le sable, inondé de honte. Elle avança la main, la posa sur mon cou. « Regardez-moi. M'en voulez-vous ?» J'ouvris les yeux. Elle penchait sur moi un regard inquiet, presque suppliant. Pour la première fois, elle me regardait comme on regarde un être sensible et pensant. Et cela, le jour où je poussais un gémissement, je détournais violemment la tête vers mon père pour me libérer de cette main. Il regardait le bateau. Ma pauvre petite fille, reprit la voix d'Anne, une voix basse, ma pauvre petite Cécile. C'est un peu ma faute, je n'aurais pas dû être si intransigeante. Je n'aurais pas voulu vous faire de peine, le croyez-vous ? Elle me caressait les cheveux et la nuque tendrement. Je ne bougeais pas. J'avais la même impression que lorsque le sable s'enfuyait sous moi au départ d'une vague. Un désir de défaite, de douceur m'avait envahi et aucun sentiment, ni la colère, ni le désir, ne m'avait entraîné comme celui-là. Abandonner la comédie, confier ma vie, me mettre entre ses mains jusqu'à la fin de mes jours. Je n'avais jamais ressenti une faiblesse aussi envahissante, aussi violente. Je fermais les yeux. Il me semblait que mon cœur cessait de battre. Mon père n'avait pas témoigné d'autre sentiment que de l'étonnement. La femme de chambre lui expliqua qu'Elsa était venue prendre sa valise et était repartie aussitôt. Je ne sais pas pourquoi elle ne lui parla pas de notre entrevue. C'était une femme du pays, très romanesque. Elle devait se faire une idée assez savoureuse de notre situation, surtout avec les changements de chambre qu'elle avait opérés. Mon père et Anne, donc, en proie à leurs remords, me témoignèrent des attentions, une bonté qui, insupportable au début, me fut vite agréable. En somme, même si c'était ma faute, il ne m'était guère agréable de croiser sans cesse Cyril et Elsa aux bras l'un de l'autre, donnant tous les signes d'une entente parfaite. Je ne pouvais plus faire de bateau, mais je pouvais voir passer Elsa, décoiffée par le vent, comme je l'avais été moi-même. Je n'avais aucun mal à prendre l'air fermé et faussement détaché quand nous les rencontrions. Car nous les rencontrions partout. Dans le bois de pin, dans le village, sur la route. Anne me jetait un coup d'œil, me parlait d'autre chose, posait sa main sur mon épaule pour me réconforter. Et je dis qu'elle était bonne. Je ne sais pas si sa bonté était une forme affinée de son intelligence ou plus simplement de son indifférence. Mais elle avait toujours le mot, le geste juste. Et si j'avais eu à souffrir vraiment, je n'aurais pu avoir de meilleur soutien. Je me laissais donc aller sans trop d'inquiétude, car, je l'ai dit, mon père ne donnait aucun signe de jalousie. Cela me prouvait son attachement pour Anne et me vexait quelque peu en démontrant aussi l'inanité de mes plans. Un jour, nous rentrions à la poste, lui et moi, lorsque Elsa nous croisa. Elle ne sembla pas nous voir et mon père se retourna sur elle comme sur une inconnue avec un petit sifflement. « Dis-moi, elle a terriblement embelli, Elsa. »« L'amour lui réussit, dis-je. » Il me jeta un regard étonné. « Tu sembles prendre ça mieux. » « Que veux-tu, dis-je, ils ont le même âge, c'était un peu fatal. » S'il n'y avait pas eu Anne, ce n'aurait pas été fatal du tout. Il était furieux. « Tu ne t'imagines pas qu'un galopin me prendrait une femme si je n'y consentais pas. » « L'âge joue quand même, dis-je gravement. » Il haussa les épaules. Au retour, je le vis préoccupé. Il pensait peut-être qu'effectivement, Elsa était jeune, et Cyril aussi, et qu'en épousant une femme de son âge, il échappait à cette catégorie des hommes sans date de naissance dont il faisait partie. J'eus un involontaire sentiment de triomphe. Quand je vis chez Anne les petites rides au coin des yeux, le léger pli de la bouche, je m'en voulus. Mais il était tellement facile de suivre mes impulsions et de me repentir ensuite. Une semaine passa. Cyril et Elsa, ignorant de la marche de leurs affaires, devaient m'attendre chaque jour. Je n'osais pas y aller. Ils m'auraient encore extorqué des idées et je n'y tenais pas. D'ailleurs, l'après-midi, je montais dans ma chambre, soi-disant pour y travailler. En fait, je n'y faisais rien. J'avais trouvé un livre yoga et m'y attelais avec une grande conviction, prenant parfois toute seule des fous rires terribles et silencieux, car je craignais qu'Anne ne m'entende. Je lui disais en effet que je travaillais d'arrache-pied. Je jouais un peu avec elle à l'amoureuse déçue qui puise sa consolation dans l'espoir d'être un jour une licenciée accomplie. J'avais l'impression qu'elle m'en estimait et il m'arrivait de citer Kant à table, ce qui désespérait terriblement mon père. Un après-midi, je m'étais enveloppé de serviettes de bain pour avoir l'air plus hindou. J'avais posé mon pied droit sur ma cuisse gauche et je me regardais fixement dans la glace, non avec complaisance, mais dans l'espoir d'atteindre l'état supérieur du yogi lorsqu'on frappa. Je supposais que c'était la femme de chambre et comme elle ne s'inquiétait de rien, je lui criai d'entrer. C'était Anne. Elle resta une seconde figée sur le pas de la porte et sourit. « À quoi jouez-vous ?»«
Au yoga, dis-je. Mais ce n'est pas un jeu, c'est une philosophie hindoue. »
Elle s'approcha de la table et prit mon livre. Je commençais à m'inquiéter. Il était ouvert à la page 100 et les autres pages étaient couvertes d'inscriptions de ma main telles que « impraticables » ou « épuisant ».
Vous êtes bien consciencieuse, dit-elle.
Et cette fameuse dissertation sur Pascal, dont vous nous avez tant parlé, qu'est-elle devenue ?
Il est vrai qu'à table, je m'étais plu à disserter sur une phrase de Pascal en faisant semblant d'y avoir réfléchi et travaillé. Je n'en avais pas écrit un mot, naturellement.
Je restai immobile. Anne me regarda fixement et comprit.
Que vous ne travailliez pas et faisiez le pantin devant la glace, c'est votre affaire, dit-elle.
Mais que vous vous complaisiez à nous mentir ensuite à votre père et moi-même, c'est plus fâcheux. D'ailleurs, vos subites activités intellectuelles m'étonnaient.
Elle sortit, et je restai pétrifié dans mes serviettes de bain.
Je ne comprenais pas qu'elle appela ça mensonge. J'avais parlé de dissertation pour lui faire plaisir, et brusquement, elle m'accablait de son mépris. Je m'étais habitué à sa nouvelle attitude envers moi, et la forme calme, humiliante de son dédain me transportait de colère.
In Friday I get my pay. Saturday morning, oh, Saturday morning, all my time is here gone away. Got my money and my honey, and I'm out on a steamer plane. Monday's a mess.
Denis Flageol.
Retour à Bonjour Tristesse.
Je quittai mon déguisement, passai un pantalon, un vieux chemisier et sortis en courant. La chaleur était torride, mais je me mis à courir, poussé par une sorte de rage, d'autant plus violente que je n'étais pas sûr de ne pas avoir honte. Je courus jusque chez Cyril, m'arrêtai sur le seuil de la villa, haletante. Dans la chaleur de l'après-midi, les maisons semblaient étrangement profondes, silencieuses et repliées sur leurs secrets. Je montai jusqu'à la chambre de Cyril. Il me l'avait montré le jour où nous étions allés voir sa mère. J'ouvris la porte. Il dormait, étendu en travers de son lit, la joue sur son bras. Je le regardais une minute. Pour la première fois, il m'apparaissait désarmé et attendrissant. Je l'appelai à voix basse. Il ouvrit les yeux et se redressa aussitôt en me voyant. « Toi, mais comment es-tu ici ?» Je lui fis signe de ne pas parler si fort. Si sa mère arrivait et me trouvait dans la chambre de son fils, elle pourrait croire. Et d'ailleurs, qui ne croirait pas ? Je me sentis prise de panique et me dirigeai vers la porte. « Mais où vas-tu ? » cria Cyril. « Reviens, Cécile !» Il m'avait attrapé par le bras et me retenait en riant. Je me retournai vers lui et le regardai. Il devint pâle comme je devais l'être moi-même et lâcha mon poignet. Mais ce fut pour me reprendre aussitôt dans ses bras et m'entraîner. Je pensais confusément, cela devait arriver, cela devait arriver. Puis ce fut la ronde de l'amour, la peur qui donne la main au désir, la tendresse et la rage, et cette souffrance brutale que suivait triomphant le plaisir. J'eus la chance, et Cyril la douceur nécessaire de le découvrir dès ce jour-là. Je restai près de lui une heure, étourdi et étonné. J'avais toujours entendu parler de l'amour comme d'une chose facile. J'en avais parlé moi-même crûment, avec l'ignorance de mon âge. Et il me semblait que jamais plus je ne pourrais en parler ainsi, de cette manière détachée et brutale. Cyril, étendu contre moi, parlait de m'épouser, de me garder contre lui toute sa vie. Mon silence l'inquiétait. Je me redressai, le regardai et l'appelai « mon amant ». Il se pencha. J'appuyai ma bouche sur la veine qui battait encore à son cou. Je murmurai « mon chéri, Cyril, mon chéri ». Je ne sais pas si c'était de l'amour que j'avais pour lui en ce moment-là. J'ai toujours été inconstante et je ne tiens pas à me croire autre que je ne suis. Mais en ce moment, je l'aimais plus que moi-même. J'aurais donné ma vie pour lui. Il me demanda quand je partis si je lui en voulais et cela me fit rire. Lui en vouloir de ce bonheur ? Je revins à pas lents, épuisé et engourdi dans les pins. J'avais demandé à Cyril de ne pas m'accompagner, c'eût été trop dangereux. Je craignais que l'on pût lire sur mon visage les signatures éclatantes du plaisir, en ombre sous mes yeux, en relief sur ma bouche, en tremblement. Devant la maison, sur une chaise longue, Anne lisait. J'avais déjà de beaux mensonges pour justifier mon absence, mais elle ne me posa pas de questions. Elle n'en posait jamais. Je m'assis donc près d'elle dans le silence, me souvenant que nous étions brouillés. Je restais immobile, les yeux mi-clos, attentive au rythme de ma respiration, au tremblement de mes doigts. De temps en temps, le souvenir du corps de Cyril, celui de certains instants, me vidait le cœur. Je pris une cigarette sur la table, frottai une allumette sur la boîte. Elle s'éteignit, j'en allumai une seconde avec précaution, car il n'y avait pas de vent, et seule ma main tremblait. Elle s'éteignit aussitôt contre ma cigarette. Je grognai et en pris une troisième. Et alors, je ne sais pourquoi cette allumette,
pris pour moi une importance vitale. Peut-être parce qu'Anne, subitement arrachée à son indifférence, me regardait sans sourire, avec attention. À ce moment-là, le décor, le temps disparurent. Il n'y eut plus que cette allumette, mon doigt dessus, la boîte grise et le regard d'Anne. Mon cœur s'affola, se mit à battre à grands coups. Je crispai mes doigts sur l'allumette, elle flamba, et tandis que je tendais avidement mon visage vers elle, ma cigarette la coiffa et l'éteignit. Je laissai tomber la boîte par terre, fermai les yeux. Le regard dur, interrogateur d'Anne, pesait sur moi. Je suppliais quelqu'un de quelque chose que cette attente cessât. Les mains d'Anne relevèrent mon visage. Je serrai les paupières de peur qu'elle ne vît mon regard. Je sentais des larmes d'épuisement, de maladresse, de plaisir s'en échapper. Alors, comme si elle renonçait à toute question en un geste d'ignorance, d'apaisement, Anne descendit ses mains sur mon visage, me relâcha. Puis elle me mit une cigarette allumée dans la bouche et se replongea dans son livre. J'ai donné un sens symbolique à ce geste, j'ai essayé de lui en donner un. Mais aujourd'hui, quand je manque une allumette, je retrouve cet instant étrange, ce fossé entre mes gestes et moi, le poids du regard d'Anne et ce vide autour, cette intensité du vide. Cet incident dont je viens de parler ne devait pas être sans conséquence. Comme certains êtres très mesurés dans leurs réactions, très sûrs d'eux, Anne ne tolérait pas les compromissions. Or, ce geste qu'elle avait eu, ce relâchement tendre de ses mains dures autour de mon visage, en était une pour elle. Elle avait deviné quelque chose. Elle aurait pu me le faire avouer. Et au dernier moment, elle s'était abandonnée à la pitié ou à l'indifférence. Car elle avait autant de difficultés à s'occuper de moi, à me dresser, qu'à admettre mes défaillances. Rien ne la poussait à ce rôle de tuteur, d'éducatrice, si ce n'est le sentiment de son devoir. En épousant mon père, elle se chargeait en même temps de moi. J'aurais préféré que cette constante désapprobation, si je puis dire, relevât de l'agacement ou d'un sentiment plus à fleur de peau. L'habitude en eût eu rapidement raison. On s'habitue aux défauts des autres quand on ne croit pas de son devoir de les corriger. Dans 6 mois, elle n'aurait plus éprouvé à mon égard que de la lassitude, une lassitude affectueuse. C'est exactement ce qu'il m'aurait fallu. Mais elle ne l'éprouverait pas, car elle se sentirait responsable de moi. Et en un sens, elle le serait, puisque j'étais encore essentiellement malléable. Malléable et entêté. Elle s'en voulut donc et me le fit sentir. Quelques jours après, au dîner, et toujours au sujet de ses insupportables devoirs de vacances, une discussion s'éleva. Je fus un peu trop désinvolte, et mon père lui-même s'en offusqua. Et finalement, Anne m'enferma à clé dans ma chambre, tout cela sans avoir prononcé un mot plus haut que l'autre. Je ne savais pas ce qu'elle avait fait. Et comme j'avais soif, je me dirigeai vers la porte et essayai de l'ouvrir. Elle résista. Et je compris qu'elle était fermée. Je n'avais jamais été enfermé de ma vie. La panique me prit. Une véritable panique. Je courus à la fenêtre. Il n'y avait aucun moyen de sortir par là. Je me retournai, véritablement affolé. Je me jetai sur la porte et me fis très mal à l'épaule. J'essayai de fracturer la serrure, les dents serrées. Je ne voulais pas crier qu'on vint m'ouvrir. J'y laissai ma pince à ongles. Alors je restai au milieu de la pièce, debout, les mains vides, parfaitement immobile, attentive à l'espèce de calme, de paix qui montait en moi à mesure que mes pensées se précisaient. C'était mon premier contact avec la cruauté. Je la sentais se nouer en moi, se resserrer au fur et à mesure de mes idées. Je m'allongeai sur mon lit et je bâtis soigneusement un plan. Ma férocité était si peu proportionnée à son prétexte que je me levai deux ou trois fois dans l'après-midi pour sortir de la chambre et que je me heurtai à la porte avec étonnement. À 6 heures, mon père vint m'ouvrir. Je me levai machinalement quand il entra dans la pièce. Il me regarda sans rien dire et je lui souris aussi machinalement. « Veux-tu que nous parlions ? » demanda-t-il. « De quoi ? » dis-je. « Tu as horreur de ça et moi aussi, ce genre d'explication qui ne mène à rien. » C'est vrai, il semblait soulagé. « Il faut que tu sois gentille avec Anne, patiente. » Ce terme me surprit. « Moi, patiente avec Anne. » Il renversait le problème. Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc la suite de ce roman de Françoise Sagan, Bonjour Tristesse, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.